voix nue. Toute cette semaine, Thomas Baumgartner rencontre Barbet Schroeder. Ce soir, montrer l'immontrable.
Bonsoir Barbet Schroeder.
Bonsoir.
On s'est rencontrés il y a quelques semaines, rapidement on s'est croisés pour préparer un petit peu cette série d'entretiens. À un moment donné, vous avez dit « j'ai de bonnes antennes ». Ça veut dire quoi ça?
Ah ben, je ne sais pas. Ça veut dire que j'ai de l'intuition.
Ouais.
Ça doit être ça, oui. C'est-à-dire que oui. C'est-à-dire qu'il y a... Il y a quelquefois, quelquefois, je m'aperçois que j'avais de bonnes intuitions, oui, mais je ne fais pas totalement confiance à mes intuitions. Mais si j'ai une intuition mauvaise, j'y vais pas.
et généralement, vous vous rendez compte que vous avez raison de ne pas y aller ?
Non, quelquefois je fais des erreurs, bien sûr. Non. Tout le monde fait des erreurs tout le temps. Ça, c'est pas. Mais disons que bon, c'est un mode général de fonctionner, de pas être uniquement obsédé par la raison, mais aussi par l'intuition. Oui.
Est-ce que l'intuition a compté quand vous avez décidé, voulu être producteur? Très jeune, je crois, vous aviez 22 ans, quelque chose comme
oui,
ça.
Oui. Oh ben non, c'était très simple. Comme je voulais faire des films, j'avais tous les cinéastes que j'admirais, les fétichismes des cinéphiles. J'étudiais de très près de savoir comment ils avaient débuté à faire des films, et je me suis aperçu que tous les cinéastes que j'admirais, Preminger, Rossellini, enfin. Plusieurs autres que j'avais regardés de près, bon, ils ont commencé plus ou moins à 40 ans. En fait, en cas de Rossini, je ne savais pas qu'il avait fait des films mussoliniens avant de faire les films que j'admirais, mais certainement ça a dû aussi faire partie de son évolution artistique, et il n'avait certainement pas 16 ans quand il faisait ses films. Donc, moi, mon idée, c'était que c'était un art adulte et que ça se rapprochait plus de l'architecture, où on est toujours en train de se bagarrer avec la réalité, et que donc ce n'était pas un art d'adolescent comme peut l'être la poésie ou la musique. Et que donc il fallait quitter les autres choses qui m'intéressaient. J'étais fasciné totalement par Baudelaire, plus que par Rimbaud, mais par Baudelaire et Rimbaud. Donc j'ai décidé que j'avais le temps, et que par contre, ce que je voyais, c'est qu'il y avait un nombre incalculable de metteurs en scène qui devaient se bagarrer et qui souffraient énormément de situations de production où ils ne contrôlaient pas les choses. Et quand je voyais un beau film de Nicolas Rey, que j'adorais, comme la Forêt interdite, et que la musique avait été massacrée au montage, et qu'il y avait des choses qui avaient été... Et toutes ces histoires-là me faisaient dire, mais le cinéma, c'est très très dangereux, il faut être armé, il faut avoir quelque chose qui vous protège, parce qu'autrement, on peut être dévoré. Et bon, alors, après... Une fois que j'étais en France, que je travaillais tranquillement, que j'avais une maison de production et tout, il a fallu que j'aille me mettre dans la gueule du loup, de l'endroit où justement ces choses-là pouvaient arriver. Je disais, je pourrais aussi arriver là-bas. C'est-à-dire que c'est des challenges que je me faisais à moi-même, mais je savais très bien que j'allais être dans un univers extrêmement dangereux pour les cinéastes. Et c'est pour ça que je n'ai jamais fait de film nulle part, sans avoir le contrôle du montage final. Et en Amérique, c'est pas une mince chose que de. Et c'est pour ça qu'en Amérique, j'étais aussi producteur. J'ai toujours eu le titre de producteur sur pratiquement tous les films.
Producteur exécutif, c'est ça ou...
C'est ça, non, produced by. Non, c'est marqué produced by. Bien sûr, il y a plein d'autres producteurs. En Amérique, n'importe qui est producteur, associé de producteur, ça veut rien dire du tout. Donc, il y a de toute façon des titres qui se donnent comme ça, qui sont ridicules. Mais moi, j'insistais toujours à avoir le producteur et d'être avec quelqu'un, avec un associé comme producteur, ça donnait encore plus de force, c'est-à-dire que ça pouvait parer les mauvais coups. Et j'avais une associée, Suzanne Hoffman, qui était très, 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 très précieuse. Et donc, voilà, c'était...
Trouver des alliés. J'ai vu que dans Calcul meurtrier, qui est un film avec Sandra Bullock, Sandra Bullock était aussi productrice et vous a aidé aussi à avoir dans une forme de production.
Non, c'est la forme de pouvoir du système américain qui fait que quand on peut être nommé producteur, on le demande. C'est comme un truc, c'est comme une médaille en plus qu'on a. Et donc, quand on peut, on le fait. Ça veut absolument rien dire. Ce qui veut dire, c'est le studio qui paye et qui essaye d'avoir le contrôle final et qui essaye de vous imposer certaines choses et pas d'autres. Et là, il faut savoir s'imposer.
Oui. Donc, le premier challenge, comme vous dites, c'est les films du Losange. Alors, on peut dire ça comme ça, une forme d'apprentissage pour vous aussi, Barbet Schroeder.
C'est-à-dire une forme d'apprentissage. Exactement, c'est une forme d'apprentissage. C'est-à-dire que j'ai une vision à cette époque-là de faire une maison de production qui produirait uniquement un groupe de cinéastes. Et ce groupe de, bon, disons un groupe étendu, il y a quelques-uns qui sont pas dans Paris Vupart et qui auraient fait partie de cette famille que je voulais créer.
Paris Vupart, un film à sketch, on dit,
Un film à sketch dans lequel il y avait Romer, Godard, Chabrol, Jean-Daniel Paulet, Jean Douchet et Jean Rouge peut-être le sketch le plus avant-garde de tous là, puisque c'était le premier film en son direct avec des acteurs et fait en un seul plan de 17 minutes. Enfin, c'était une date dans l'histoire du cinéma pour moi, ce sketch là. Et donc il y aurait eu aussi Rosier, normalement Jacques Rosier, c'était cette idée-là de cette famille, et c'était l'idée de faire un long métrage de chacun de ces gens-là, et d'autres longs métrages de chacun de ces gens-là, et de les faire en 16 mm. C'était l'idée du 16 mm, qui est, disons, l'équivalent de la vidéo aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est devenu possible, tout ce dont je rêvais, de faire un cinéma plus léger, dans lequel on peut avoir du son direct avec des caméras à l'épaule, et dans laquelle surtout on peut avoir des exploitations faciles, puisque je pensais qu'en adaptant une machine de bris 16 mm sur le 35 mm, comme un espèce de parasite, on pouvait projeté en 16 mm dans toute la France, dans n'importe quel cinéma. Bon, il s'est avéré que techniquement, c'était pas possible. Et donc, toute mon entreprise s'est effondrée parce que c'était basé sur le fait que on dépensait pas beaucoup en gonflage de 16 en 35. Et donc, toute la chose s'est effondrée. Mais la première pierre de l'édifice, était posée et j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance une fois que j'avais démarré. C'était pas grand chose, il fallait faire une société. Donc moi j'ai été au registre public, j'ai dit bon, qu'est-ce qu'il faut, montrez-moi. J'ai fait une société et c'était pas grand chose, puisque c'était une société de court métrage, donc le capital était pas trop gros.
Siège social chez maman.
Et comment ?
Siège social chez maman.
Siège social chez maman, exactement, toujours à la rue de Bourgogne, c'était là où il y avait les bureaux. Ce qui a été très dangereux, c'est que bon, j'étais suisse et je suis suisse et je n'avais absolument pas le droit, en tant que suisse, de faire une société, d'avoir la majorité de départ et d'être gérant. Et de situer l'endroit, le siège social, dans l'appartement de même.
Tout ça, c'était dans votre chambre.
Tout ça, c'était des trucs complètement illégaux. Et ils s'en sont rendus compte plus tard, parce que je me suis engueulé dans la queue des pour avoir des cartes de résident, il fallait faire la queue à 5 heures du matin à l'île de la Cité, avec des milliers de gens. C'était horrible comme expérience. J'étais soumis à cette expérience tous les 6 mois. Et c'était vraiment très humiliant, très très dur. Et un beau jour, il y avait une dame qui faisait un abus d'autorité, qui se comportait mal, et j'ai répondu, je me suis indigné, etc. Et elle m'a noté, et puis j'ai eu la visite rue de Bourgogne de quelqu'un qui a commencé à mettre le nez dans tout ça et qui s'est rendu compte que... Donc j'ai été condamné et tout ça, mais la société était déjà bien partie. Et c'est comme ça que j'ai fait nommer gérant, parce qu'il fallait que je trouve quelqu'un. Moi, j'avais un groupe d'amis auxquels j'avais donné les parts. C'est-à-dire, il y avait Jean Douchet, il y avait Pierre Cottrel, il y avait bien sûr Romer, il y avait etc. Et j'aurais donné les parts, et c'était ça. On fait une société, puis vous allez voir, on va tous faire des films ensemble, et tout va marcher. Et donc... Et là, c'est Cottrel qui a dû prendre la signature, parce que Romer ne voulait pas, Douchet non plus, et Cottrel, il était quand même dans le bureau, c'est-à-dire mm-hmm. Il avait un petit vélo, il faisait les courses, on travaillait ensemble, c'était mon assistant, quoi. Et donc, on n'était que deux, et le bureau ouvrait à 2h30, avant je dormais le matin, et il y avait une ligne de téléphone, et puis voilà, on a tout fait comme ça.
C'est pour le travail, Barbet Schroeder, c'est pour ces années d'apprentissage très pratique du cinéma. Mais à côté de ça, vous voyagez déjà, non? J'étais à la Factory chez Andy Warhol,
absolument,
quand
oui.
Il a présenté le Velvet Underground.
Absolument.
Qu'est-ce que vous faisiez à New York à ce moment-là?
J'étais toujours fasciné par l'Amérique. Dès que j'ai pu, j'ai commencé à aller en Amérique. Et je me rappelle avoir été avec Polanski, on était en 62 ou quelque chose, 63, on devait être à Montréal. Et puis après, on a été à New York et... Donc après aussi à New York, j'ai commencé à fréquenter un peu tous les différents endroits où il se passait des choses. Et c'est comme ça que j'ai atterri à la Factory. Oui. Et Andy Warhol insistait beaucoup pour me recruter comme partie de sa bande. Il voulait que j'aille passer des week-ends avec eux dans le truc. Mais j'avais un physique trop beau à l'époque pour que ce soit des propositions honnêtes. J'ai pas...
Et uniquement artistique, vous voulez dire.
Oui, oui, voilà. Mais bon, il m'expliquait quand même pourquoi il aimait les films de Godard, etc. Mais c'était parallèle à Paris vu par ça. C'était parallèle. Je commençais à explorer un peu comment ça se passait en Amérique. Oui.
Avec un désir de rencontre, là. J'ai l'impression à la fois qu'il y a... Une des choses qui vous caractérise, c'est la liberté de mouvement, même géographiquement, physiquement. On ne vous empêche pas, on ne peut pas vous empêcher de bouger, et d'aller au contact. Mm-hmm. C'était déjà là, ça.
Oui. Mais, oui, je ne sais pas quoi dire à ça, mais voilà, oui, c'est vrai, sans doute, oui.
Et vous écrivez avec Paul Jégoff, à ce moment-là, ce qui va devenir votre premier long métrage, non, dans ces
Alors, années-là. Non, ça se passe différemment. C'est-à-dire que... donc, j'avais dit que j'attendrais d'avoir 40 ans, mais en fait, en douce, je commence à écrire pendant 4 ans, mais très péniblement. Je n'écris pas bien, je ne suis pas très doué, c'est un premier scénario. Je ne fais pas les dialogues, je fais juste la construction. Il y a de temps en temps des lignes de dialogue. Ça finit par faire un truc qui fait 50 ou 70 pages, mais qui n'est pas vraiment un scénario, qui a besoin d'être retravaillé par un professionnel. Et donc, parallèlement à ça, j'étais devenu très ami avec Paul Jégoff, qui a donc... jeté un coup d'œil, alors que j'y travaillais déjà depuis 4 ans. Il m'a dit, mais c'est beaucoup trop long, il faut changer ça, il faut raccourcir là, etc. C'est là que je commençais à réaliser que tout ce que tous les metteurs en scène doivent réaliser un jour ou l'autre, c'est que les films qu'on a en tête sont beaucoup plus longs. que ce que le marché supporte, et que donc il faut couper, et que ça, et qu'on veut absolument pas, parce que c'est, on coupe des choses essentielles, etc. Et donc il faut apprendre tout ça, c'est la chose la plus importante et la plus difficile à apprendre. Alors donc j'ai beaucoup protesté quand il voulait couper, etc. Mais c'était vraiment, il avait absolument raison. D'ailleurs, le film lui-même était trop long au premier montage, etc. Et donc il a écrit. Un premier draft d'un truc qui ressemblait plus à un film qu'à une succession de scènes, c'est-à-dire qu'il y avait des dialogues. Alors, les dialogues, ça donne quand même... Le dialogue donne le caractère. Donc, si vous voulez, je me suis retrouvé avec une influence de Chekhov, comme Godard s'était retrouvé avec une influence de Chekhov, comme Romer s'est retrouvé...
Et
Chabrol aussi, bien sûr. Donc, il y avait, mais Romer, il y a cette fameuse histoire que Romer m'a racontée, où il avait été voir après Ma nuit chez Maud Chekhov, à pied, c'est-à-dire à pied et en train. Il avait été le voir, il était en dehors de Paris, à Vaugirard, à Vauréal, et il lui avait dit j'ai fini par me débarrasser de ton influence. Après Ma nuit chez Maud.
Donc il a été lui déclaré.
Et donc moi, je reconnais que dans Mort, il y a l'influence de lui, d'autant plus qu'il y a des dialogues qui sont écrits par lui. Bon, il y a d'autres choses que j'ai aménagées. Toutes les histoires sur les drogues. D'ailleurs, Chekhov, avec raison, me disait tout ce que les gens... Quand il parle de drogue, ça va être la première chose qui va être démodée dans ton film, c'est ça. c'est pas démodé, mais en même temps, il y a des trucs où on dit dans 5 ans, ça sera légal de la marijuana. Bon, c'est à la fois faux et démodé, et en même temps, c'est quand même devenu vrai.
Donc, ce premier film, c'est Mort, qui. C'est un film qui sort en 1969.
Alors, il est tourné en 68, ouais. Et il est bloqué par la censure en 69. Il passe au Festival de Cannes, il est refusé dans la compétition principale, mais après le succès qu'il a à Cannes dans la semaine de la critique, tout le monde dit, s'il avait été en compétition, parce que c'était vraiment un énorme succès, s'il avait été en compétition, il aurait gagné la palme, etc. Et donc c'était un très très gros succès. D'emblée, évidemment, c'est toujours la chose la mieux du monde et la plus dangereuse.
Un premier succès, vous voulez dire ?
Oui, c'est toujours... Oui, c'est un premier succès aussi dans la production, parce que la même année, pratiquement, il y avait Ma nuit chez Maud, qui était aussi un des plus grands succès de Romer. Donc on était catapultés tout de suite dans le succès, et on a dû quitter la chambre d'adolescents de la rue de Bourgogne pour aller dans des endroits un peu plus sérieux.
Mort, c'est l'histoire d'un jeune étudiant allemand qui veut faire la fête, qui part de chez lui.
Je ne crois pas qu'il veut faire la fête, non. Je crois qu'il veut, aller vers le sud, il veut aller vers le soleil. Il a cet appel profond des Allemands vers le sud. Mmh. Et ça, c'est dans toute la littérature, surtout la littérature romantique. Et c'est un peu un roman d'apprentissage, comme dans la littérature romantique. Oui.
Il tombe amoureux d'une jeune fille à Paris, une jeune femme à Paris, et qu'il suit à Ibiza. Une femme fatale en t-shirt, j'ai vu que vous disiez ce personnage joué par Mimsy Farmer.
Oui.
Quelque chose de très solaire et de très venimeux, en fait.
Venimeux, je dirais douloureux, parce que rongé par la jalousie. Et il y a eu une des grandes choses que j'ai vécues. C'était quand je devais avoir 16 ans, j'ai lu À la recherche du temps perdu, d'une traite, parce que j'étais au lit, j'avais une jaunisse épouvantable, j'étais au lit pour pendant 6 mois, et j'ai lu... Donc la recherche du temps perdu, et à l'âge de 16 ans, j'étais plus marqué que tout par la jalousie, et par le côté histoire d'amour et jalousie. Et donc c'est ce côté très douloureux et très impossible de cet amour entre Stéphane et Estelle dans Mort qui me touchait. Et c'est ça qui fait un peu une, je crois, la qualité du film et qui le rend immémorial. Parce que quand on découvre en fait que c'est une femme fatale, mais qui ne le veut pas non plus être fatale, qui est une femme fatale malgré elle, puisqu'elle a quand même déjà tué, elle a emmené à la mort trois garçons sans le vouloir. Donc c'est évidemment assez tragique. Oui.
Est-ce que vous pensez que ce film a fait parler de lui pour de mauvaises raisons? La drogue, c'est ça le scandale de la drogue, montrer la drogue, alors qu'effectivement il y a cette histoire derrière d'amour.
Je ne crois pas, parce que vraiment je rencontre un nombre incalculable de gens qui me disent pas c'est le meilleur film du monde, c'est le plus grand film du monde, mais qui me disent ce film a changé ma vie. Vraiment, il y en a vraiment trop pour que je puisse pas commencer à me poser des questions, à me dire bon qu'est-ce qui. Et alors, ce changement de vie, c'est de découvrir qu'il y avait une autre manière possible de vivre. C'était pas forcément la drogue. C'est la drogue peut-être en faisait partie d'une manière, mais c'était une idée de liberté, une idée de sensualité, une idée de soleil. Et quand on montre bien les paysages méditerranéens avec sensualité, avec amour, comme Romer l'avait fait d'ailleurs dans La Collectionneuse a eu beaucoup de succès à cause de ça aussi, à cause de cette nouvelle actrice, cette jeune fille, à cause de cette... Il y avait beaucoup d'éléments, je m'étais rendu compte, comme le film était un succès, qu'il y avait des tas de gens qui comprenaient rien à Romer et qui pensaient que c'était du marivaudage et qui le mot marivaud à propos de Romer, combien de fois on l'a pas entendu, alors que c'est exactement le contraire. Mais bon, ils parlaient c'était du marivaudage, que de toute façon ça les intéressait pas, mais que tout le reste du film les intéressait. Je pense qu'il y avait cet élément-là qui jouait, et je pense que dans Amnésia aussi, je découvre qu'il y a ce phénomène-là aussi de l'idée de voir un côté d'Ibiza qui n'est pas du tout dans l'image qu'on s'en fait d'habitude de club et de fête, etc.
Amnésia, qui partage avec Mort un lieu, un décor
qui est tourné
maison,
dans la même maison. Oui,
dans la même maison. Il y a une chose dans Mort qui est une sorte de, je ne sais pas si c'est un projet cinématographique qui éclot à ce moment-là, mais en tout cas qui est très clair, c'est que vous donnez comme mission de montrer l'immontrable, c'est-à-dire de montrer l'extase, de montrer les faits, de montrer les faits de la drogue sur les corps. Et ça, il faut que ça passe à l'image. C'est un défi, ça.
Ah, c'est un défi absolu. C'est-à-dire que je me rends compte après que c'est des défis. Je me suis souvent posé des défis et je ne sais pas pourquoi. Parce que au lieu de dire, bon, voilà, au cinéma, ça passe à tous les coups, les gens peuvent comprendre. Je me dis, bon, je voudrais transmettre une chose que normalement le cinéma ne devrait pas arriver à transmettre. Et ça, c'est complètement idiot, c'est vraiment se mettre des trucs, mais c'est par volonté de faire autre chose, quoi. Ouais, c'est la volonté d'explorer autre chose. Mais c'est vraiment pas facile, parce que j'ai fait la même chose avec le... Il y a une autre chose qui est incommunicable, le jeu. Comment est-ce qu'on peut être animé de la passion du joueur qui va finir par jouer les choses qu'il gagne d'une manière malhonnête pour pouvoir les perdre, parce que ce qu'il aime, c'est perdre, en gros. Comment est-ce qu'on peut communiquer ça à une audience donc un film sur le jeu, c'est garanti que ce soit un film sur la perte. On va jamais faire un film sur le jeu où il y a quelqu'un qui gagne des millions et qui vit très heureux jusqu'à la fin de ses jours.
C'est Tricheur avec Jacques Dutronc en joueur maladif.
Voilà. Et donc la drogue, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut communiquer le plaisir que les gens ont quand ils prennent de la drogue, parce qu'autrement ils n'en prendraient pas. Même le crack, qui est la chose la plus effrayante au monde, où on est transformé en fantôme, en hagard, on sait que c'est ça que ça produit, mais les gens qui y ont goûté, et ça, moi je suis toujours prêt à goûter tout, mais ça, non. Parce que justement, je vois qu'il doit y avoir quelque chose de formidable, et ça, j'y vais pas. Mais, et donc, cette chose formidable, ce plaisir, comment le communiquer, et alors il faut employer d'autres moyens, c'est-à-dire le plaisir esthétique, le plaisir de la beauté, de la simplicité, de la sensualité, de toutes ces choses-là, qui finit par donner l'idée que on a approché ce plaisir de la drogue, alors que dans les films d'habitude où on parlait de drogue, c'était toujours dans des allées sordides, des gens qui s'enfonçaient des aiguilles. On dit mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien trouver comme plaisir en faisant ça. Tout l'environnement était déjà tellement sordide qu'il y avait déjà un jugement moral dans l'environnement. Et voilà.
Justement, ça c'est une chose qu'on trouve dans la plupart de vos films, Barbet Schroeder, c'est le spectateur qui juge, c'est pas vous. Est-ce qu'on peut dire ça ?
Ah oui, absolument. C'est-à-dire que moi, j'ai une autre chose, c'est que j'ai une véritable allergie au pouvoir. Et donc j'ai fait Amin Dada pour ça, parce que je considère qu'Amin Dada, c'est la caricature de tous les pouvoirs politiques. C'est pas seulement un dictateur africain, c'est tous les hommes politiques, y compris ceux qui sont élus. Et donc j'ai une allergie au pouvoir. Et donc, par exemple, jamais je serai membre du jury de quelque jury que ce soit, parce que c'est une position de pouvoir où on décide, voilà, on est de ce vivre. Bon, c'est une lâcheté, parce que finalement, il faut assumer les responsabilités d'aider les bons films. Et pas... Moi, j'aime pas ça, c'est viscéral chez moi, et vous ne me verrez jamais membre du jury de quelques festivals que ce soit, ou de quelques commissions d'avance.
Et recevoir un prix, alors ?
Recevoir, bon, ça tout ce qui peut aider un film, oui. Je suis d'accord. Si c'est recevoir un prix pour la carrière, là, déjà, je commence à être moins enthousiaste, puisque moi, je veux aider le dernier film, c'est tout. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Mais...
Ou le suivant.
Ou le suivant, bien sûr, bien sûr.
Une autre manière de dire cette question de l'immontrable, c'est la question de l'intensité, en fait. Faire passer à l'écran l'intensité d'une vie, d'une vie humaine.
Oui, il faut trouver l'équivalent dramatique. Alors là, c'est là où il faut commencer à faire aussi des études de dramaturgie et de voir qu'est-ce qui est le plus fort dramatiquement et d'essayer de trouver une dramaturgie qui sort du bien et du mal, quoi. Parce que évidemment, si la dramaturgie c'est le bien doit gagner sur le mal, c'est tellement basique, mais il y a pratiquement tous les films américains sont faits là-dessus, parce que c'est pas pour rien qu'ils ont élu Bush. Il faut pas oublier que l'Amérique c'est à 50% Bush, et dans les films aussi, et dans les films aussi, parce que le public vote pour les films qu'il veut voir aussi, et donc ça on en parlera peut-être, que j'ai fait en Amérique des films où justement il n'y avait pas les bons qui allaient triompher des méchants, il y avait les bons qui commençaient à se comporter comme des méchants, et ça brouillait toutes les grilles de la morale.
Oui, Barbet Schroeder, vous êtes précipité dans la gueule du loup de ce pays, du pays de l'industrie cinématographique, du bien et du mal. Et bien, effectivement, on en parlera dans la suite de ces entretiens à voix nue. Merci à vous.
Bonsoir.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Thomas Baumgartner avec Barbet Schroeder. À voix nue, attaché d'émission, Claire Poinsignon. Prise de son, Martin Guénard. Réalisation, Anne-Pascale Desvignes. Cette émission s'écoute en ligne pendant une durée de 1000 jours et ce podcast pendant un an sur franceculture.fr.